Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu cet après-midi pour écouter la première conférence de la saison 18-19 de Céline Roux. Donc, cette conférence est en l'honneur et à l'occasion de la venue de la Batsheva Dance Company. Je me présente parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Nadège, je travaille sur la programmation danse du Quartz ici. Et je ne vous cache pas que je suis très contente que la Batsheva vienne aujourd'hui parce que ça fait très longtemps qu'on essayait de les avoir. Nous avions déjà programmé par le passé, et Céline a fait des conférences déjà lors de la venue de la compagnie d'Offenschächter, pour peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là. Offenschächter est un disciple, enfin en tout cas a commencé ses classes et a travaillé avec Oana Harin, et je trouvais ça intéressant, même si c'était après, de vous faire rencontrer le travail d'Oana Harin, qui a été quand même un des grands, qui est toujours un grand chorégraphe, et qui a quand même influencé toute cette nouvelle génération de danseurs et de chorégraphes israéliens. Donc ça, vous allez le voir bien plus en détail avec Céline. Et je voulais juste vous redire que la prochaine conférence que nous aurons, c'est à l'occasion de la venue d'une autre figure de la danse contemporaine, qui est la Trisha Brown Company, qui est au mois de janvier. Et donc, il y aura le spectacle. Là, il y aura deux représentations, plus la conférence de Céline. Il reste encore des places sur Trisha Brown, donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Et puis, il y aura une troisième conférence à l'occasion de la venue du danseur flamenco Israël Galvan. Ça, c'est un peu plus tard dans la saison. Je crois que c'est février. Voilà, je vais vous laisser avec Céline. Une petite précision concernant le spectacle de ce soir. On va vous le redire aux portes du spectacle, mais comme je suis là, j'en profite. C'est un spectacle qui va se dérouler d'une traite, sans pause. Et là, il y a des petites consignes, c'est-à-dire qu'ils acceptent aucun retardataire. Donc on démarrera avec 5-6 minutes de décalage par rapport à 19h30 pour que tout le monde puisse arriver. Et si jamais il vous prend l'envie de vouloir sortir pendant le spectacle, il ne sera pas possible de re-rentrer. Donc prenez vos dispositions avant et restez, ça dure 1h15, restez tout le spectacle parce que si vous sortez, vous ne pourrez pas rentrer. Voilà, et puis passez le mot à vos petits camarades, comme ça tout le monde sera dans de bonnes dispositions pour accueillir le spectacle. Donc je vous laisse avec Céline et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis ravie qu'il y ait autant de monde. Ça veut dire qu'effectivement, la Batsheva Company donne envie de peut-être connaître un peu plus de cette danse israélienne que l'on connaît peut-être peu, ou que à travers quelques noms, comme le disait Nadège, au travers des noms d'Offenschächter ou de Oana Harin, notamment. Effectivement, le public européen aujourd'hui connaît largement ces noms. Je dirais, pour pouvoir enseigner avec des jeunes danseurs, que ce sont des chorégraphes qui donnent beaucoup envie aux jeunes danseurs de danser. Donc on sent qu'il y a un grand engouement comme ça pour cette danse contemporaine israélienne. Et donc c'est l'occasion ce soir de pouvoir partager quelques mots à ce sujet. Je précise deux choses. Je m'excuse si j'accroche quelques noms israéliens parce que ma prononciation ne sera pas forcément juste. Et ensuite, je ne lis ni ne comprends l'hébreu. Donc parfois, voilà, les traductions peuvent être approximatives. Offenschächter, Oana Harin, tout le monde les connaît. Peut-être par contre, si je vous donne d'autres noms de chorégraphes israéliens d'aujourd'hui, je pense par exemple à Mirali Sharon, à Itzik Galili, à Noah Wertheim, ou à Adi Shaal, à Noah Dar, à Barak Marshall, qui est un chorégraphe très connu en Israël, à Yasmin Goder, à Inbal Pinto et à Avshalom Polak. Peut-être que là, ça vous dit beaucoup moins de choses. Ce qui nous montre, pour n'en citer que quelques-uns, mais ce qui nous montre qu'on ne connaît qu'une petite part de cette créativité contemporaine israélienne, et notamment, qui s'est notamment développée énormément dans les années 1990 à Tel Aviv. quelques chorégraphes aussi du paysage français que vous associez peut-être pas forcément à la danse israélienne. Je pense à Emmanuel Gatt, par exemple, qui est plutôt installé dans le sud de la France, ou encore à Yuval Pick, qui est installé au centre chorégraphique de Rieux-la-Pape, qui sont eux-mêmes des chorégraphes qui ont été formés par cette danse israélienne. Alors, pour ce soir, j'ai choisi de partager un temps autour de ce titre avec vous, Danse contemporaine en Israël, regard sur la Batsheva Dance Company et Ohad Naharin, avec comme point de départ, enfin, du moins au début de mes recherches, je me suis dit, ah ben, je vais vraiment focaliser sur la Batsheva et Ohad Naharin. Et puis, progressivement, je me suis aperçue que c'était tout de même important qu'on revienne peut-être avant cela, avant la fondation de cette Batsheva, pour comprendre comment est-ce que la danse israélienne contemporaine des années 90 n'est pas née de rien, mais plutôt est née au cours du XXe siècle à travers une danse moderne qui s'est construite progressivement. Donc, je vais faire deux parties, si je suis courte sur mon introduction. Une première partie sur cette élaboration de la danse moderne vers la danse contemporaine israélienne, et puis une deuxième partie sur la Batsheva et sur Ohad Naharin. Durant le XXe siècle, la danse en Israël s'est développée, on va dire, en deux directions. La première, c'est l'expansion d'une danse folklorique juive. Et puis de l'autre, la création de ce qui va être appelé la danse artistique, qui va se produire sur des scènes de théâtre, créées par des chorégraphes professionnels, interprétées par des danseurs professionnels et non pas par des danseurs amateurs. Et donc, c'est ainsi qu'on voit qu'une certaine danse de scène va naître dans les années 1920 en Israël. Et notamment, elle est introduite, cette danse de scène, par des enseignants nouvellement arrivés sur la terre d'Israël et qui sont des adeptes de danse originaires de centres culturels européens, puis très rapidement de centres culturels américains. Vous allez le voir, il y a une très grande présence de la danse moderne américaine dans cette construction de la danse israélienne. Après la création de l'État d'Israël en 1948, a été développé un haut niveau professionnel chez les danseurs, avec un certain nombre d'ensembles et de compagnies qui vont émerger, et chacun va essayer de se fonder sur un style particulier, sur un mode de créativité, influencé par les contextes sociaux, religieux, culturels, très variés en Israël. Ceci, mêlé avec un répertoire classique, néoclassique, moderne, puis contemporain, occidental, qui va être tout de suite attrapé, je dirais, par ces compagnies installées et fondées en Israël, et notamment à Tel Aviv. Ainsi, on va dire que les débuts de la danse dite artistique contemporaine en Israël se situent bien avant la déclaration, la constitution de l'État indépendant d'Israël en 1948. Et ces débuts sont le fait de personnalités très singulières investies dans le développement de la danse. Alors, je vais vous parler rapidement de quelques figures pour vous montrer la diversité de ces artistes. Au début des années 20, vous avez un homme venant de Russie, un danseur, Baruch Agadati, qui arrive en Israël. Il va être créateur de nombreux ballets dont les personnages sont caractéristiques dans un premier temps des communautés juives est-européennes. Et puis ensuite, il va élargir son répertoire en y intégrant des personnages de ce que l'on va nommer les Retz Israël de l'époque, c'est-à-dire des pionniers, des Arabes rencontrés à Jaffa, des Juifs du Yémen. Et ainsi, il va vraiment étoffer son panel d'interprétation. En cela, il va vraiment précéder une des figures les plus importantes, des personnalités créatrices les plus importantes de la danse israélienne, Sarah Levitaneh, qui par la suite, au début des années 50, va fonder le théâtre de la danse Inbal et qui va véritablement travailler sur interpréter ces cultures, ces différentes cultures constituant Israël. Mais nous allons y revenir ensuite. Donc, première figure. Seconde figure, une danseuse classique, la ballerine Rina Nikova, qui en 1925, c'est une ancienne élève de l'école de Leningrad, qui va fonder en 1925 à Jérusalem le ballet biblique et le Yemenite Dance Ensemble. Alors son groupe est composé, comme vous le voyez sur les quelques images d'archives, essentiellement de jeunes filles d'origine yéménite, à qui elle va enseigner ce qu'elle va appeler la danse d'école. Et simultanément, elle va, grâce à ces jeunes filles, découvrir les chants et danses de tradition yéménite juive qu'elle va utiliser comme source d'inspiration, ce qui va lui permettre de véritablement développer un style sur des rythmes orientaux. Elle va développer des ballets sur des thèmes bibliques à partir d'une sorte de syncrétisme qui va être bien à elle, mêlant style classique de tradition russe et puis tradition orientale juive, des juifs du Yémen. Alors va en ressortir un grand lyrisme dans ses danses. Vous pouvez peut-être le sentir un peu dans les postures, dans les photographies. Et puis, c'est une compagnie qui fera des tournées en Europe jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une compagnie qui déjà se déploie largement dans le paysage européen et au-delà de ses propres, terres de création. Au début des années 30, grande figure de cette construction de la danse israélienne moderne, Gertrude Krauss, qui est une danseuse qui est née et qui a beaucoup travaillé à Vienne, qui est déjà très célèbre en Europe, qui va, au début des années 30, donner ses premières représentations en Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, dans des kibbutz. Et puis, elle est très célèbre déjà en Europe pour ses solos qu'elle construit dans la lignée de l'expressionnisme allemand, avec vraiment l'idée que par le solo, on est dans l'expression de soi. Alors, elle milite pour une technique individuelle qui est vraiment singulière à chaque danseur. Et elle va ainsi, pendant plusieurs années, être assistante de Rudolf Laban. Et donc, elle va suivre largement ses préceptes dans sa manière de créer des danses, tout comme dans sa manière de transmettre la danse d'expression. Elle va fonder plusieurs compagnies. Et puis, elle va rapidement, à la fois en tant qu'individu et comme artiste, s'intéresser aux problèmes sociaux et politiques. Et donc, elle sera, lorsqu'elle va devenir sioniste, elle va vraiment avoir des opinions, on va dire, socialistes progressistes. Et c'est ce qu'elle va essayer de développer dans son art chorégraphique, mais aussi avec son propre groupe de danseurs, aussi bien en Europe qu'en Israël ensuite. Elle va s'installer en Israël définitivement en 1935, face à la montée des nazis au pouvoir en Allemagne et puis à l'aggravation de la situation des juifs en Europe sur cette période. Elle est importante parce qu'en Israël, elle va créer le premier groupe de danse dite moderne qui sera affilié au Tel Aviv Folk Opera. Et donc c'est ainsi qu'elle va vraiment inscrire dans l'institution l'idée d'une danse artistique moderne en Israël. Elle est considérée d'ailleurs comme la première dame de la danse expressionniste en Israël. Vers la fin des années 40, avec la fondation de l'État, de nombreux danseurs des États-Unis vont venir et vont apporter avec eux les nouvelles idées et techniques de la modern dance. Évidemment Martha Graham, on peut penser aussi à José Limón, à Paul Taylor et d'autres. Et donc très rapidement, Gertrude Krauss, ne voulant pas rester en reste de ces innovations américaines, va rapidement se rendre aux États-Unis grâce à une bourse pour pouvoir acquérir ces nouvelles tendances de danse moderne. Et ainsi, elle va véritablement, là encore, opérer un syncrétisme entre différentes filiations pour pouvoir, revenant en Israël, les partager et les transmettre. Elle fondera au début des années 50 une autre compagnie importante dont on reparlera tout à l'heure, qui est l'Israel Ballet Theater. Beaucoup de jeunes créateurs de danse moderne israélienne auront été élèves de cette Gertrude Krauss et beaucoup, comme elle, partiront notamment aux États-Unis
pour avoir, avec des bourses, pour recevoir des influences, des techniques et des manières de danser très différentes à pouvoir partager lorsqu'ils reviennent chez eux. Alors c'est le cas notamment de danseuses d'âges différents et de générations différentes, comme Yardena Cohen, comme Deborah Bertonoff, ou encore comme Oshra El-Kayam, qui vont toutes à leur manière essayer de trouver un style particulier à partir de cette confluence d'héritages qu'elles vont recevoir différemment les unes et les autres. Avec les années 50, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une femme, Sarah Levitaney, avec l'Inbal Dance Theater, qui va marquer un tournant dans la création israélienne, puisqu'elle marque le début d'une grande évolution dans la danse moderne originale israélienne. Elle est originaire d'une famille juive du Yémen qui va s'établir en Israël au début du XXe siècle. Et elle va faire ses premiers pas de danse, on va dire, dans le domaine de la danse, en composant des chants et des danses qu'elle met en scène dans des kibbutzim. Et c'est comme ça qu'elle rencontre l'art de la danse. Elle a par la suite rencontré un groupe de yéménites arrivés en Israël après la guerre d'indépendance. Et c'est ainsi qu'elle va vraiment prendre contact avec cette tradition, cette antique tradition du judaïsme yéménite, s'inspirant de leur style artistique et notamment de leur style artistique dans les arts vivants. On pense au chant, on passe aux mélodies, au rythme et aux pas de danse. Et c'est ainsi qu'elle va intégrer ces gestes, ces rythmes du folklore yéménite dans des adaptations qu'elle va faire modernes de ces traditions. Et si jusqu'alors on avait plutôt un rejet par la danse dite savante ou dite artistique de ces traditions, avec le Inbal Dance Theater, on va très largement voir un intérêt à pouvoir redécouvrir ces différentes traditions pour les incorporer dans les danses modernes puis contemporaines. Alors je vais vous montrer un court extrait de danse parce que peut-être que vous n'en avez pas forcément d'imaginaire. Ça s'intitule, vous le voyez sur l'affiche, c'est en français, Mariage yéménite, puisque ça a été joué au Théâtre des Nations en France en 1962. Je vous en montre un extrait. Évidemment, ça peut nous faire penser en un autre temps les travaux de recherche que faisait une Rousse Saint-Denis sur les danses orientales d'Asie ou de Java. Donc retrouver des mouvements, des rythmes issus des traditions populaires ou religieuses. Je l'arrête là. Peut-être en aparté, juste dire deux mots sur ces danses dites ethniques, parfois. Hein. La danse ethnique en Israël reflète la composition très variée de sa population. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés à Jérusalem et ont vu comment est-ce que c'est finalement une population qui est très, très variée et très intensément plurielle. Et la danse ethnique, véritablement, reflète cette diversité. On peut penser à la debka arabe, à la druze, la danse typique du Moyen-Orient qui est très répandue en Israël. On peut penser aussi à la communauté tcherkesse dont les membres sont arrivés par le Caucase il y a 2 siècles, et chacun possède des styles de danse très différents. Et puis ensuite, on a tous les juifs venus du monde entier depuis les débuts de la colonisation juive à la fin du 19e siècle, qui ont chacun apporté avec eux les danses caractéristiques de leur pays d'origine. Et donc, on a la danse hassidique, par exemple, des pays d'Europe de l'Est. On a la danse yéménite, qui est une source d'inspiration très forte pour de nombreux créateurs israéliens. On a les danses du Kurdistan, les danses du Maroc, les danses de Tunisie, ainsi que toutes celles des autres pays, on dira, d'Afrique du Nord. Donc, évidemment qu'on a une très grande variété à cet endroit-là. Cette variété, dans un premier temps, et avant notamment ce travail de Sarah Lévitanet, avait été étouffée, on va dire, par les générations des premiers pionniers qui aspiraient à la création d'une civilisation nouvelle et donc d'un art nouveau. Et vous connaissez l'histoire des civilisations. Quand on veut du nouveau, très souvent on se dit on met loin l'ancien parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Là où à partir des années 40 et notamment à partir de ce travail du Inbal Dance Theater, on va redécouvrir la puissance, je dirais, de ces danses traditionnelles et on va pouvoir les intégrer à la créativité qui est mise en place à partir des années 50. Donc ça va être très très important. C'est une vraie bascule dans l'histoire de la danse moderne israélienne. Et Sarah Lévitanet est vraiment pionnière dans ses recherches. D'ailleurs, c'est amusant, lorsqu'on lit un petit peu de choses sur elle, on s'aperçoit qu'il y a un Américain qui l'a vu, qui a vu la compagnie danser en Israël, c'est Jerome Robbins, le danseur néoclassique américain qui était en tournée à l'époque par le Fonds culturel Amérique-Israël, qui a été enthousiaste de ce travail et qui donc très vite a cherché à trouver les moyens de partager des relations, je dirais, fortes entre États-Unis et Israël. Et c'est assez naturellement qu'il va proposer à une jeune danseuse et chorégraphe de venir régulièrement travailler en Israël dans différentes compagnies. C'est Anna Sokolov, qui a été danseuse chez Martha Graham, qui a été chorégraphe d'une compagnie qui s'appelle Dance Unit et qui surtout a été activiste dans 2 groupes politiques de danseurs aux États-Unis, le New Dance Group et la Workers Dance League, et qui va comme ça venir régulièrement enseigner en Israël, qui va même fonder le Lyric Theater en 1962, cherchant effectivement à former de jeunes danseurs israéliens à ces techniques de danse moderne issues de cette filiation américaine. Donc vous le sentez peut-être déjà dans tout ce que je viens de dire, il y a vraiment un lien très important entre culture de la danse moderne américaine et construction de la danse moderne israélienne. Cette danse moderne israélienne se construit vraiment dans ces années-là et à partir des années 60, on a les grandes compagnies que l'on connaît ou les grands ensembles que l'on connaît encore aujourd'hui qui vont se construire. Aujourd'hui, on a plus d'une douzaine de grandes compagnies professionnelles en Israël, dont la plupart sont installées à Tel Aviv, avec quelques exceptions importantes. Alors, j'ai choisi de vous parler de une ou deux de Tel Aviv et puis de vous parler de quelques exceptions aussi avant qu'on passe un peu de temps sur la Bat Sheva. Première compagnie importante de Israel Ballet, compagnie fondée en 1967 par Bertha Yampolsky et Yael Merkman, qui sont 2 danseurs israéliens revenus en Israël après un long séjour à l'étranger qu'ils ont partagé entre Europe et États-Unis. Et c'est une compagnie de répertoire qui mêle œuvres de répertoire et œuvres nouvelles. C'est la seule compagnie, il me semble, si je ne dis pas d'erreur, professionnelle en Israël qui est en capacité de présenter, on va dire, le répertoire classique international. C'est une compagnie qui est adossée à une école de formation qui est très importante, une école de formation classique. Et vous le reconnaissez peut-être en bas, pour certains d'entre vous, c'est Georges Balanchine, parce qu'en 1975, Georges Balanchine va autoriser la réalisation de son œuvre Sérénade par l'Israël Ballet. Et très rapidement, il va ensuite donner tous ses droits de représentation gratuits pour ses pièces à ce ballet. Ce qui explique que l'Israël Ballet a dans son répertoire un grand nombre d'œuvres de Balanchine, ce chorégraphe russe, issu des ballets russes, qui est ensuite parti fonder le New York City Ballet aux États-Unis. Et donc, dans le répertoire de l'Israël Ballet, on a des œuvres de Balanchine, on a aussi quelques œuvres originales de ses fondateurs, on a quelques relectures de La Belle au bois dormant, de Casse-Noisette. On a des ballets classiques complets comme Gisèle, Cendrillon, etc. Et puis on a des œuvres modernes créées par des jeunes chorégraphes israéliens qui complètent les programmes possibles par cet Israël Ballet qui fait figure d'exception dans le paysage israélien parce que la danse moderne va avant tout être pratiquée à un autre endroit. Qui fait partie de la tradition culturelle israélienne, la danse moderne va surtout être pratiquée dans les kibboutzim, où la danse est une pratique collective qui sert à l'éducation notamment des enfants. Je vous rappelle, les kibboutzim, ce sont des sociétés qui répondent parfaitement, qui ont été inventées comme mode de vie israélien. Ce sont des sociétés dont le mode de vie est communautaire et basé sur une gestion démocratique de la production et de la consommation et sur la propriété collective. Au sein de ces kibboutzim, l'éducation artistique et créative est très importante et donc évidemment que la danse fait partie de ce qui peut être partagé dans l'éducation des enfants et des plus grands. Et il y a un kibboutz qui va vraiment développer énormément ce travail autour de la danse, c'est le Kibbutz Contemporary Dance Company, qu'on appelle aussi Village International de la Danse, qui se situe au nord de l'État d'Israël, à Gaaton, et qui a été fondé en 1973 par Yerudit Harnon, qui est une rescapée de la Shoah et qui a décidé de mettre en place au sein de ce kibboutz une compagnie et un lieu de formation pour les danseurs du monde entier. C'est pour ça que l'on parle de village international. C'est ce Kibbutz Contemporary Dance Company existe toujours. Aujourd'hui, il est dirigé par Rami Beer, qui notamment, si vous suivez un petit peu l'actualité de la danse en France, a eu pas mal d'articles dernièrement autour d'une pièce qu'il a présentée, notamment à Paris, qui s'appelle Mother Milk. Et donc, aujourd'hui encore, il y a l'idée dans ce kibboutz de Gaaton de véritablement construire un programme unique autour de la danse, de la transmission de la danse, avec des étudiants qui viennent du monde entier pour se former sur des sessions de longueur plus ou moins grande. Hein, c'est des formes de stages, alors des stages qui peuvent être de quelques semaines, voire de quelques mois. Et donc, vraiment, l'idée de se retrouver dans une société sous la forme d'un kibboutz pour développer sa pratique de danseur. Donc là, on est très loin de ce que l'on peut connaître peut-être traditionnellement comme compagnie ou comme école de danse en Europe. Autre lieu peut-être un peu, je dirais, singulier dans ce paysage israélien. Alors là, on va partir au sud d'Israël, à Mitzpeh Ramon, où un centre de danse qui s'appelle Adama a été fondé par Liat Dror et Nir Bengal, qui sont un duo de danseurs et chorégraphes qui ont commencé à chorégraphier, il me semble, au milieu des années 80. Et puis autour des années 2000, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas pratiquer la danse comme mode de vie s'ils restent dans la vie dans laquelle ils sont. Et ils décident donc d'installer la compagnie à Mitzpeh Ramon, qui, vous le remarquez sur l'image du haut, est en plein cœur du désert. Et donc ils vont y fonder un centre de danse et du mouvement, qui accueille aussi en son sein leur compagnie. Et ainsi, ils essayent de créer un projet de vie autour de la danse. Alors, ils disent, nous voulions vivre une vie sans séparation, alors la danse ferait partie de notre vie quotidienne et non un art isolé qui exige une vie compétitive et mouvementée. Nous voulions danser depuis un lieu de dévouement, de discipline et d'amour. Donc voilà, un autre lieu assez spécifique ou assez singulier dans cette, je dirais, nomenclature ou typologie des différentes compagnies présentes dans la danse contemporaine en Israël. Dernier point important avant que l'on passe à la Bat Sheva, parler peut-être d'un centre très important pour les arts vivants et notamment pour la danse à Tel Aviv, qui est le centre Suzanne Delal, qui va être fondé à la fin des années 80, qui est un lieu de spectacle, mais aussi un lieu d'entraînement, avec des studios de danse, avec un théâtre, voilà, et qui est un lieu qui accueille deux compagnies, la compagnie Inbal et puis la Bat Sheva Dance Company, de manière régulière, enfin, comment dire, en résidence. Et donc c'est un lieu important parce que c'est un lieu où il y a une programmation très très riche à l'année. C'est un lieu où on a donc une programmation. On a aussi des formes de concours pour faire émerger de jeunes chorégraphes israéliens. Donc un lieu très dynamique autour de la danse. Et c'est à cette toute fin des années 80 que ce lieu va être créé à Tel Aviv et qu'il va vraiment centraliser, je dirais, les forces vives de la danse contemporaine en Israël. Et donc c'est dans ce lieu que travaille régulièrement la Bat Sheva Dance Company. Et c'est cette Bat Sheva Dance Company que l'on va pouvoir voir ce soir, du moins le Young Ensemble, hein, puisque la Bat Sheva est divisée en deux parties. La Bat Sheva Company, qui est la compagnie, je dirais, principale, ou en tout cas la première qui a été fondée, plutôt le dire comme ça. Et puis ensuite a été fondée une deuxième partie de compagnie, qui est le Young Ensemble, les plus jeunes danseurs qui, au sortir de leur formation, fondent le deuxième ensemble de la Bat Sheva. Alors cette Bat Sheva Dance Company, qu'en dire? Peut-être quelques mots simples au départ. Fondée en 1964 à Tel Aviv à partir du désir d'une personne, Bat Sheva de Rothschild, pardon, qui avait ce rêve de fonder une compagnie de danse en Israël, et avec le soutien d'une chorégraphe au point de départ, Martha Graham, danseuse chorégraphe moderne américaine que vous connaissez tous, je pense, au moins de nom. Et donc, c'est Bat Sheva de Rothschild, petite fille du baron James de Rothschild, qui est fondateur de la branche française de la banque du même nom, qui va avoir ce désir de fonder une compagnie en Israël. Et elle demande à Martha Graham son aide, tout simplement parce qu'elle elle l'a côtoyée à New York. Elle a pris des cours avec elle, elle a vu les spectacles, elle a même sponsorisé énormément sa compagnie, son lieu de travail à New York. Et c'est assez naturellement que lorsqu'elle a cette idée de créer une compagnie en Israël, qu'elle va lui demander de devenir, on va dire, le superviseur artistique de la compagnie. Ce que Martha Graham va accepter de faire de 1963 à 1975. Donc pendant plus de 12 ans, elle va opérer à ce travail. Ce n'est pas pour cela qu'au point de départ, on n'a que le travail de Martha Graham dans le répertoire. On va avoir un répertoire qui va très rapidement accueillir des pièces de Jérôme Robbins, de José Limón, de Curtios, etc. Et puis ensuite, d'un certain nombre d'artistes israéliens qui vont pouvoir eux aussi faire partie du répertoire très éclectique du coup de la Bat Sheva, un répertoire très conséquent. Si vous êtes intéressé par cela, je dis entre parenthèses, la Bat Sheva depuis peu de temps a mis en place sur internet un site avec toutes ses archives. C'est labyrinthique, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir année par année le nombre de pièces qui étaient produites. C'est très, très impressionnant. C'est-à-dire qu'on n'était pas à une création par an, mais bien à un répertoire qui pouvait s'augmenter de 4, 5, 6 pièces par an. Donc un répertoire qui s'est très vite constitué et qui a été constitué de formes esthétiques très diversifiées rapidement. Peut-être un premier court documentaire sur cette construction de cette compagnie. Alors Vous allez le voir, c'est un documentaire qui va être à la fois en anglais et en hébreu, avec des sous-titrages en anglais et en hébreu. C'est un peu compliqué, donc je vais essayer de le traduire sur les choses importantes. On va faire quelque chose qui va, voilà, qui, je pense, va fonctionner, j'espère.
Batsheva était isha im chazon, isha madhima.
Batsheva était une visionnaire, une femme incroyable. On s'asseyait, elle disait, je veux prouver au monde, je veux que ce pays prouve au monde que nous valons quelque chose. Elle m'a appelée, elle m'a dit « Allô, Rina », avec son accent français. C'est Batsheva. J'ai une idée folle. J'ai décidé que j'allais créer une compagnie de danse. Elle serait professionnelle.
Martha Graham has agreed to be the artistic advisor.
Martha Graham en sera la responsable. Et j'apporterai des chorégraphes, des professeurs de l'étranger.
Martha
a dit, tu es folle. J'ai cru parce qu'il croyait la conviction de Bézabé, celle de François Chapira, la force de Martha, m'ont convaincu que cela pouvait être une bonne chose. C'est une femme géniale, ce n'est pas pour rien que Cocteau a dit qu'elle était une des quatre plus grandes figures du XXe siècle. Chaplin, Stravinsky, Picasso et Graham. Je suis désolée, hein, c'est un peu, mais j'essaye de faire au mieux pour que les non-anglophones comprennent. Donc, vous voyez, un très grand engouement qui a été mis en place dès le départ, et puis surtout une Batsheva Rothschild qui a les moyens de ses envies et qui donc va pouvoir injecter les finances nécessaires à la construction de cette compagnie. La compagnie va donc être imaginée en 63, puis elle va véritablement commencer à travailler en 64. Et évidemment que le répertoire de Martha Graham sera très rapidement celui qui va être mis en avant dans un premier temps. Martha Graham va accepter que la Batsheva Company puisse danser un certain nombre d'œuvres de son répertoire. Une petite parenthèse, beaucoup de ses œuvres, ce sont celles qui sont de son cycle grec, plutôt que celles de son cycle américain, par exemple. C'est le cas notamment de Hérodiade, qui est rentré dès la première année au sein du répertoire de la Batsheva. Alors, l'histoire d'Hérodiade parle d'une femme qui doit choisir entre être femme, mère ou artiste. À ce jour, je peux le danser et l'interpréter encore mieux. Avec Martha, ce n'était pas seulement du mouvement. Chaque pas avait sa signification. Quand tu viens de quelque part, pourquoi, où vas-tu ? Tout le monde n'a pas la chance de travailler avec des personnes qui s'imprègnent profondément dans la danse, comme elle le faisait. Je me souviens être debout sur la scène derrière le rideau et j'entendais la musique et je sentais une force qui me poussait sur scène. C'était simplement parfait. Alors je marchais vers la toile de fond, pardon, pour la première partie, et c'est ce qu'elle va faire ici. Ce qui m'intéresse dans ce court extrait, c'est d'abord de voir cette femme plus âgée revivre intensément et la force d'interprétation qu'elle a pu sentir dans Hérodiade. et aussi ça nous, il me semble en tout cas, ça nous fait comprendre comment dès le départ dans la Batsheva Company, il y a cette idée d'une expression intense et forte dans un corps qui est très tonique chez Martha Graham. Et ça, vous allez très certainement le revivre ce soir avec la pièce de Hannah Arendt, qui est aussi dans cette force qui mêle puissance d'intention avec précision physique reliée à l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà présent, on le sent dans ce témoignage, autour de cette pièce qui est rentrée dans la première année de la Batsheva Company, dans ce travail de Martha Graham. Alors, il n'y aura pas que du Martha Graham, comme on le disait. Il y aura aussi, par exemple, du Donald McHale avec Daughter of the Garden, qui rentrera aussi la même année au sein du répertoire de la Batsheva. Plus tardivement, on aura aussi des pièces néoclassiques. Ça sera le cas, par exemple, avec Moves de Jérôme Robbins, qui rentrera au répertoire en 1969. Et puis, des pièces d'autres techniques que celles que Martha Graham, pour les danseurs qui sont présents dans la salle, vous savez tous que le Martha Graham, c'est Contraction and Release. On aura aussi un certain José Limón, qui rentrera dans le répertoire de la compagnie en 69, notamment avec The Exiles. Alors, je vous en montre peut-être un court extrait. Je précise juste que là, c'est pas dansé par la Batsheva, c'est dansé par la compagnie de Limón, parce que je n'ai pas toujours eu les images issues de la Batsheva. Mais ça vous montre juste que là encore, on est dans un corps qui est à la fois très précis, dans une recherche d'une certaine virtuosité technique. Et puis qui est quand même dans une puissance, voilà, une puissance d'interprétation. Martha Graham restera tout de même dans un premier temps, je dirais, peut-être la figure la plus importante du répertoire, et avec des pièces très emblématiques comme Errand into the Maze. Et là, je vais vous en montrer un court extrait. Là encore, ce n'est pas de la Batsheva, mais de la compagnie de Martha Graham. Simplement pour que vous puissiez voir le type de répertoire qui était transmis. Donc énormément de pièces de Martha Graham vont être transmises. Celle-ci, par exemple, a été jouée plus de 110 fois par la Batsheva. Donc vous voyez, c'était des pièces qui tournaient énormément. Et qui vous montrent encore quelque chose qui est vraiment définissant le travail de Martha Graham, cette force du pathos, de la pulsion qui est exprimée à travers le corps dans une grande puissance. Et à partir d'une gestuelle spécifique, d'une signature technique spécifique. Là encore, on est dans une thématique qui est là une thématique grecque. Très souvent, ces thématiques grecques étaient reliées pour Martha Graham à tout un travail autour de la psychanalyse. Donc là encore, un lien entre corps et esprit. En 1974, Graham créera même, je crois que c'est Jacob's Dream, qui est vraiment une pièce créée pour la Batsheva, qui ne sera pas dansée par sa propre compagnie. Donc un lien très très fort qui se construit comme ça dans les premières années avec Graham pour cette Batsheva. Et puis ensuite on aura un certain nombre de directions artistiques qui vont se succéder, plus ou moins longues, quasiment toute américaine au point de départ, des gens comme Jane DeLay, qui était une danseuse de Graham, Norman Walker, qui venait du Jacob's Pillow, Brian McDonald, qui est un Canadien, qui vient de la danse jazz et du néoclassique. Donc, beaucoup comme ça de direction américaine avant que les premiers Israéliens puissent véritablement eux-mêmes premier artiste israélien prendre la direction de la Bat Sheva. Ça sera plus tardif. Entre-temps, la baronne de Rothschild va vouloir subventionner une autre compagnie qui va être plus ou moins en concurrence. Ça va être la Bat Dor Dance Company qui va être créée en 1967 avec une jeune danseuse, Janet Ordman, qui vient d'Afrique du Sud, qui s'est installée à Tel Aviv. Et donc, la baronne de Rothschild va vouloir, avec elle, créer cette nouvelle compagnie, Bat Dor Dance Company. Bat Dor, ça veut dire fille de notre temps. Et donc, elle va complètement arrêter de collaborer avec la Bat Sheva pour se consacrer complètement à cette nouvelle compagnie. Donc, je vais vous montrer quelques images de documentaires. Je ne traduirai pas malheureusement ce qui est dit en hébreu sans sous-titrage.
Bat Sheva
croyait en tout ce que disait Janet. Bat Sheva pensait que Janet pouvait être un exemple de directrice de compagnie. Aussi, si cela n'a pas marché avec les danseurs de la Bat Sheva, cela marcherait avec une compagnie qu'elle formerait avec Janet. Et lorsque...
They were both totally dedicated to Bat Dor.
Zaya Pashut Mifal.
Elvin Ailey, Mark Scanningham, Paul Taylor. היו לה את כל האפשרויות להביא איזה כוריאוגרפים שהיא רק רצתה מהעולם.
אנחנו היינו על אחת הלהקות הכי עשירות. אנחנו נסענו בעולם עם אווירון פרטי.
They fulfilled a need on each other's part. And it was certainly beyond just the money that Bat Sheva had.
Janet. הסיפור האמיתי על ז'נט אורדמן, הברונית בת שבע דה רוטשילד, ולהקת המחול, בת דור, בסרטה החדש של רות ולק, עכשיו במרכז סוזן דלל ובסינמטקים ברחבי הארץ.
Voilà, j'ai arrêté la traduction simultanée, ça devenait ridicule. Vous avez à peu près compris le sens, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui, d'un seul coup, parce que beaucoup d'argent est injecté, va pouvoir faire des tournées mondiales assez extraordinaires en avion privé, va pouvoir accueillir des chorégraphes du monde entier. Il cite notamment Cunningham, que vous avez pu voir dans le documentaire. Et cette idée que finalement, Janet Ordman va avoir toute puissance de décision dans cette compagnie qui va exister, il me semble, jusqu'au milieu des années 2000 et qui va s'arrêter, notamment parce qu'après le décès de la baronne de Rothschild, il y aura moins d'argent et que voilà, les soutiens financiers vont disparaître. Donc, parallèlement, il y aura cette deuxième compagnie. Vous avez peut-être vu dans le documentaire, lorsqu'on demande à la baronne de Rothschild est-ce qu'il y a pas un problème de concurrence entre ces deux compagnies, elle dit je n'en connais qu'une, la Bat Dor. Donc il y a vraiment eu un revirement pour elle d'intérêt vers cette nouvelle compagnie. Mais si nous revenons à la Bat Sheva, à partir des années 80, vraiment la compagnie va abandonner peu à peu les ballets d'esthétique Martha Graham pour se tourner à la fois vers le ballet classique et puis vers les créations de jeunes chorégraphes israéliens. Et en 1990, arrive celui qui est toujours présent aujourd'hui au sein, comme directeur de la compagnie, Ohad Naharin, qui va, en 1990, créer plusieurs pièces pour la compagnie, notamment Kir, cette pièce qui va être jouée au Jerusalem Theater en 1990. C'est là que va commencer l'aventure Naharin pour la Bat Sheva. Alors, comme directeur, il va créer un grand nombre d'œuvres, mais il va aussi savoir ouvrir la compagnie à un répertoire très varié, avec des chorégraphes invités. Alors, on pourrait citer Matzek, Angelin Prejlocage, William Forsythe. Donc, il va comme ça permettre à la compagnie d'avoir un répertoire très diversifié au-delà de ses propres créations. Et puis, à partir de 2009, il va partager la direction artistique avec Adi Salant, qui est une ancienne danseuse de la compagnie, ce qui va permettre véritablement de développer encore plus, je dirais, la compagnie et ses possibilités de tournée et de travail. si la compagnie intègre des travaux de chorégraphes européens et américains de renom, elle va aussi intégrer des travaux de chorégraphes israéliens. Et c'est notamment le cas d'une pièce qui, il me semble, a été passée au Quartz il y a quelques années, Pressing, de Ofer Schechter, qui avait été créée en 2006 par la compagnie d'Ofer Schechter et qui va intégrer le répertoire de la Batsheva en 2013. Donc il y a aussi cette idée que la Batsheva puisse accueillir en son sein des œuvres de danseurs qui ont pu, à un moment donné, être présent dans la Batsheva en tant qu'interprète. Autre petit clin d'œil, je vais vite parce que je voudrais parler un peu plus de Hannah Arendt ensuite. En 2018, c'est une chorégraphe que vous connaissez, je pense, qui a créé une nouvelle pièce pour la Batsheva Dance Company. C'est Marlène Montero-Freitas, qui a été, il me semble, accueillie plusieurs fois au Quartz. Je regarde Nadège qui me dit oui, non. Elle va l'être, voilà. Et donc, elle a créé Canine Jaunâtre 3 cette année pour 17 danseurs de la Batsheva Dance Company. Donc voilà, toujours cette idée d'aller chercher de nouveaux chorégraphes internationaux pour renouveler le répertoire de la compagnie. Aujourd'hui, la Batsheva Dance Company, c'est une quarantaine de danseurs. C'est une compagnie qui se produit dans plus de 250 représentations par an. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail en Israël et à l'étranger avec, donc comme je vous le disais, la compagnie dite principale et puis la compagnie dite junior, le Young Ensemble, qu'on va avoir l'occasion de voir ce soir dans la pièce Décadence. Quelques mots peut-être maintenant pour finir sur Hannah Arendt. Vous avez peut-être eu l'occasion d'aller voir le film en début de semaine. Je sais qu'il était programmé, il me semble, au cinéma à Brest, Mr. Gaga. Donc, pour ceux qui l'ont vu, vous n'avez plus aucun secret sur sa biographie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à pouvoir peut-être le louer. Ou c'est un film documentaire très intéressant, en tout cas, sur comment est-ce que la vie de Hannah Arendt nous dit beaucoup, je trouve, de l'histoire d'Israël et de la culture d'Israël. Chez Hannah Arendt, il y a vraiment une importance donnée à la qualité du mouvement dans la danse, une importance donnée au ressenti, au lâcher prise, à être dans l'émotion, dans l'écoute de son émotion. Il dit souvent qu'il n'y a pas de recherche de perfection à proprement parler, mais plutôt une recherche de dépassement des limites. C'est-à-dire que pour lui, la perfection, c'est vraiment arriver à être dans ce dépassement des limites telles qu'on se les est représentées jusqu'alors. Vous le verrez dans son travail, il y a vraiment une importance donnée au rythme. C'est un grand musicien lui-même. Grande précision rythmique, grande animalité aussi dans le travail. Et ça, c'est quelque chose qui, il me semble, est important à avoir en tête dès le départ. Effectivement, si vous êtes intéressé par son histoire personnelle et d'artiste, comme je vous le disais, on y voit vraiment une partie de l'histoire culturelle d'Israël, les kibbutzim, le service militaire obligatoire, la question des guerres, la question de l'exil, le passage dans les classes de danse américaines, mais aussi le passage court à l'école de Moudra de Maurice Béjart, et puis le retour en Israël, le passage dans la Bat d'Or Company, les allers-retours entre Israël et les États-Unis. Et puis, cette recherche d'émancipation, de liberté face aux pensées orthodoxes très présentes en Israël. En tout cas, voilà, le film, je crois, de Tomer Herman essaye de retracer cette chose-là. Hannah Arendt est, en tout cas pour les jeunes danseurs qui sont présents dans la salle, peut-être connue aussi pour l'invention d'une technique, la Gaga Dance, la technique Gaga qui est enthousiasmante pour beaucoup de jeunes danseurs.
With the Gaga technique, which is the movement language that
qui est le langage de mouvement de Hannah Arendt.
Gaga, it's the teacher and the dancers are all the time moving. There are no
enseignants et danseurs sont tout le temps en mouvement.
By, suggestion of connecting.
L'enseignant donne des suggestions pour connecter l'esprit et la physicalité.
Like Ohadnarin class movement. Each day is also a different class, different information.
Chaque jour est différent.
Also different feeling inside the body. Suddenly, you know, something falls. Like
les sensations sont différentes.
It's like, oh, it's so clear now.
And then parfois quelque chose tombe et quelque chose devient plus clair. Et nous recherchons cela. Parfois ça se passe au niveau moléculaire, dans des tout petits endroits.
Can't see them, but if you
on peut les entrevoir, on peut les sentir, on peut les connecter avec d'autres espaces. Alors on approche le mouvement depuis un autre endroit. Il y a quelque chose de très bestial dans l'entraînement Gaga.
Ohad talks a lot about groove and inside groove and how you connect to your inside passion.
Donc comment vous êtes connecté à votre groove et à votre groove intérieur. À ce sujet, Ohadnarin dit lui-même, Gaga est un langage incarné dans une série de mouvements. Le principe est d'écouter son corps avant de lui dire quoi faire. Procéder ainsi permet de prendre conscience de nos blocages physiques, de nos faiblesses, atrophies, et aussi de dépasser chaque jour ses limites devenues routinières, familières. L'idée est de développer une habileté à se déplacer instinctivement en apprenant à lier ensemble la délicatesse et la puissance impulsive que nous avons tous en nous. Apprendre à rire de nous-mêmes et à mettre ensemble notre passion avec la puissance physique de notre imagination tout en développant nos habiletés, nos compétences physiques. J'ai appelé cela Gaga car j'en avais assez de parler de mon langage et que j'avais envie de me référer à un mot aux sonorités enfantines, le premier que j'ai prononcé d'après ma mère. En tout cas, voilà, cette idée de créer un langage nouveau qui permette véritablement de connecter l'intention, l'esprit, les sensations avec le corps physique. Et puis, aussi, peut-être dire qu'avec Ohadnarin, il y a l'idée que danser en Israël, c'est aussi être confronté à des positionnements politiques, à des enjeux politiques et religieux forts, qui sans cesse s'entremêlent à la créativité artistique, au sein d'un État à l'histoire complexe et aux enjeux religieux multiples, vous n'êtes pas sans le savoir. Et chez Ohadnarin, il y a eu rapidement avec la Bat Sheva l'idée d'essayer de trouver une liberté, une certaine émancipation face aux pensées orthodoxes. Au sujet de sa position politique, il dit « L'occupation doit cesser, le politique doit se libérer du religieux, il est temps d'apprendre enfin à respecter l'autre et ses endroits inaliénables. » Et pour ceux qui ont vu le film « Mr. Gaga », il y a un moment où véritablement c'est très fort à ce sujet, c'est au moment où est raconté le moment où la compagnie doit danser « Radmi Yoda » au moment du jubilé d'Israël et à l'impossibilité de pouvoir le danser. Alors j'en ai extrait juste quelques paroles pour ceux qui n'ont pas vu le film qui illustre cette question.
On est en mai 1998.
Politique.
C'est le 50e anniversaire de l'État d'Israël. On est invité à participer au grand jubilé. La Bat Sheva va présenter une méga version de Radmi Yodea au son du chant de la Pâque juive à l'occasion du jubilé à Jérusalem. C'est un événement majeur. Le lendemain de la répétition générale, j'ai reçu un appel. Une femme qui y avait assisté avait trouvé la danse offensante à l'égard des personnes croyantes. Elle avait appelé un politicien et ils estimaient qu'il fallait changer les costumes.
ערב טוב לכם וחג עצמאות שמח. תחילה למופע פעמוני היובל ולמאבקים הנמשכים סביבו עד לרגע זה ממש.
סערת רוחות בוועדת החינוך של הכנסת שדנה היום בשערוריית פעמוני היובל.
Tout à coup, à quelques heures du début du spectacle, Oad a été emmené au bureau présidentiel.
Le téléphone sonne et j'entends « Naomi, je suis au bureau présidentiel. Ils m'ont donné 5 minutes pour prendre ma décision. Je ne peux pas parler là. » Le président Weizmann avait dit à Oad « Où est le problème ? Plutôt que de leur faire porter des sous-vêtements, mettez-leur des caleçons longs, c'est pareil !»
את זה לא תוכלו לראות הערב. את התחתונים כנראה יחסה משהו צנוע יותר, משהו שהציבור הדתי יוכל לחיות איתו ולא יפיל את הממשלה בגללו.
Oad a raconté aux danseurs ce qui se passait. Qu'il était avec le président qui le menaçait, qu'il avait obtempéré et décidé de changer les costumes pour la représentation du soir. Et qu'ensuite, il démissionnerait de la compagnie. Les danseurs se sont aussitôt levés en disant « Pas question, on ne monte pas sur scène, tu as notre soutien. Tu ne peux pas nous forcer à monter sur scène, on n'y va pas. »
Une demi-heure avant le spectacle, tout le monde était là. Des célébrités, des invités internationaux, l'Union européenne, le vice-président des États-Unis, Al Gore, et tous les membres de la Knesset.
Le lendemain au réveil, ça a fait la une de tous les journaux. Il y a eu une manifestation à Jérusalem, une à Tel Aviv et à bien d'autres endroits encore.
עם להקת בת שבע, עם אוהד נהרים ועם התרבות במדינת ישראל.
Pour nous, ça a été un revirement complet. Après ça, Oad est devenu un héros, le chef de file de la scène culturelle. Ça l'a rendu fort.
Voilà, je l'arrête là, mais juste, ça replace aussi les questionnements de créativité de la bat Sheva au sein de sa culture. Pour terminer, parce que je vois que le temps passe, deux petites choses encore. D'abord, ce soir, vous allez voir Decadence par la bat Sheva, le Young Ensemble Dancers, avec un certain nombre d'extraits, puisque Decadence a été une pièce qui a été créée comme une pièce anniversaire par Oad Naharin. C'est une pièce qui combine des sections de différentes œuvres et qui permet de reconfigurer à chaque programmation une décadence, une danse de la décade, quelque part, une danse des 10 ans. Et donc, ce soir, voilà, vous aurez un panel choisi d'un certain nombre d'extraits des pièces d'Oad Naharin sont des pièces qui ont existé entre 1990, créées entre 1990 et 2011. Ça, c'est la première chose. Et enfin, pour terminer, je voulais terminer avec quelques mots et quelques images du travail d'entraînement des danseurs de la bat Sheva. Plutôt que de terminer sur mes propres paroles, ce sont des images prises autour du training de la compagnie et de la parole. Doan Naharin sur le travail.
The work that I've just choreographed a couple of months ago. It's called The Hall. The company is going to do again with a piece called Naharin's Virus. They haven't danced it for a while. And we're going to revive a piece called Three and Mamutot.
Le travail de répétition incessant sur la sur le répertoire.
It's an opportunity to discover a lot about how we reflect about why we dance.
Découvrir pourquoi nous dansons.
And it's a lot about listening to our body more than telling it what to do.
Écouter notre corps plutôt que de lui dire quoi faire.
It's about delicacy, it's about the scope of
sensation. C'est au sujet de la délicatesse, de la fragilité. La sensation de l'efficacité,
la
capacité d'écoute.
The opposite of listening to your body is numb. People can do powerful things with their body, but
Les gens peuvent faire des choses fortes avec le corps.
I call it dead flesh.
Mais s'ils n'écoutent pas leur corps, j'appelle ça de la chair.
A lot about the ability to acquire new habits.
La capacité d'acquérir nos habitudes, de reconnaître nos méchancetés, les informations de circulation dans le corps,
se
connecter à nos sensations, à nos passions, se connecter à cet acte d'écouter.
Nous avons été ici depuis 1990.
Nous sommes ici depuis 1990. J'aime vraiment danser.
And I love the act of composition.
J'aime l'acte de chorégraphier.
I love meeting the dancers.
J'aime rencontrer les danseurs.
There is something about the process of choreographing that can take you places that I could never imagine.
Il y a quelque chose au sujet du processus chorégraphique. C'est qu'il donne une place à laquelle je n'ai jamais imaginé qu'elle existait.
In the world anymore. And here it is. The studio provided me a huge opportunity of discovery.
Au-delà du monde, le studio m'offre l'énorme opportunité de découverte.
In the process that I have with them, they're also great contributors.
C'est vraiment la place où nous pouvons réellement quotidiennement exister au-delà des limites. Je l'arrête là. Ça vous donne envie, j'espère. Vous avez une heure de pause avant de pouvoir aller à la salle à l'heure, vous l'avez compris. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt, j'espère.